Vous écoutez, on lit pour vous.
Un nombre record de travailleurs humanitaires tués en 2024, un texte de Magdalene Boutros paru le 10 mai 2025 dans Le Devoir. Pendant 15 mois, Olivier Van de Castil a été détenu arbitrairement en Iran. En mai 2023, le travailleur humanitaire belge qui a été torturé et gardé en isolement a été relâché par le régime des ayatollahs. Une histoire qui illustre à elle seule une réalité alarmante. Les violences contre les humanitaires ne cessent d'atteindre des sommets dans le monde. « Ce n'est pas que Gaza », dit l'homme de 44 ans, qui a fondé en 2024 l'organisation Protect Humanitarians. C'est partout dans le monde. Des humanitaires sont ciblés en Ukraine, kidnappés dans le Sahel et mis en détention arbitraire au Yémen ou au Venezuela. Selon l'ONU, 2024 a été l'année la plus funeste jamais enregistrée pour les humanitaires dans le monde. Au moins 377 travailleurs ont été tués dans 20 pays, une hausse de près de 100 décès comparativement à l'année précédente, déjà beaucoup plus meurtrière que 2022. En incluant les travailleurs ayant été blessés, kidnappés ou détenus arbitrairement, on constate que l'année 2024 a fait plus de 700 victimes parmi les humanitaires. Il y a 10 ans, on était à la moitié de ce chiffre-là, s'alarme Olivier Van de Castil. Les conflits dans le monde ont certes augmenté, pendant que le respect du droit international humanitaire, lui, a périclité. On se retrouve en première ligne avec une protection qui nous est normalement due, qui n'est plus appliquée et avec une impunité quasi généralisée pour les crimes commis contre les acteurs humanitaires, déplore-t-il en entrevue depuis la Belgique. À Gaza, il y a quelques semaines, 15 secouristes ont été tués. Au Yémen, au moins une cinquantaine de travailleurs humanitaires locaux et internationaux sont détenus. Sur la ligne de front en Ukraine, des médecins sont devenus des cibles. Le tout sans que les auteurs de ces crimes soient importunés outre mesure. Normalisation des violations. C'est ça, notre vécu, témoigne à son tour un travailleur humanitaire de Médecins du Monde au Sahel, dont Le Devoir a accepté de taire l'identité pour des questions de sécurité. Une réalité d'autant plus inquiétante qu'une normalisation des violations du droit international s'est installé au rythme où les agressions contre les humanitaires sont demeurées impunies, s'inquiète-t-il. Tant qu'il n'y aura pas une accentuation des sanctions vis-à-vis des personnes, des groupes et même des États qui commettent ces actions, nous pensons que nous allons continuer à assister à ces actes de violence. Dans 95% des cas, les victimes sont des travailleurs humanitaires locaux. D'abord parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux sur le terrain que leurs collègues venant de l'international. Puis parce qu'une bonne partie des conflits armés sont aujourd'hui à caractère communautaire, explique-t-il. Lorsque le staff local se rend sur le terrain, il est d'abord perçu comme appartenant à une communauté avant d'appartenir à une ONG. Fini la perception d'acteurs neutres et impartiaux, l'aide humanitaire est désormais vue comme ayant un sens politique. Des groupes djihadistes mettent aussi en avant des narratifs hostiles aux groupes étrangers, auxquels ils assimilent les organisations humanitaires. Soutien pour tous. Mais bien que les travailleurs locaux soient les principales cibles, le meurtre d'un humanitaire local est 500 fois moins médiatisé que celui d'un membre du personnel international, rapporte la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Une statistique saisissante. Et lorsqu'ils sont blessés, kidnappés ou détenus arbitrairement, les travailleurs locaux sont moins bien protégés que leurs collègues de l'international puisqu'ils ne peuvent compter sur une assistance consulaire et que leur couverture d'assurance est souvent plus restreinte, pointe Olivier Van de Castil. Pour offrir un soutien à l'ensemble des humanitaires, celui qui a occupé pendant une vingtaine d'années des postes de chef de mission et de coordinateur de projets en Afghanistan, au Mali ou encore en Iran, a fondé en 2024 l'organisation Protect Humanitarians. Un projet qui est né pendant l'expérience très douloureuse de sa détention en Iran, au cours de laquelle il a été gardé en isolement la quasi-totalité du temps. Pendant près d'un an et demi, j'ai disparu. Je n'avais plus de contact avec ma famille, mon pays, mon ambassade, raconte-t-il. C'est alors qu'il a compris qu'il ne serait plus capable de repartir en mission comme avant et qu'il s'est fait la promesse, s'il était relâché, de lancer une structure visant à protéger le métier d'humanitaire, à l'image de ce que Reporters sans frontières fait pour les journalistes. Avec Protect Humanitarians, on fait du plaidoyer. On a un fonds d'urgence pour couvrir des frais médicaux et du soutien légal et on travaille sur l'enjeu du soutien psychologique, explique celui qui a recouvré la liberté en mai 2023, après avoir été échangé contre le diplomate iranien Assadollah Assadi, condamné en 2021 en Belgique à 20 ans de prison pour avoir fomenté un attentat en France. Besoin en hausse. Selon les deux travailleurs interrogés, lorsque la sécurité des humanitaires périclite, c'est une double peine qui est imposée. Les travailleurs eux-mêmes sont exposés à plus de dangers. Et les populations locales, elles aussi, souffrent davantage puisqu'elles ne reçoivent plus l'aide nécessaire. Tout ça au moment où leurs besoins augmentent. On le voit très clairement. La vulnérabilité des populations déjà très vulnérables ne fait que s'accentuer, signale le travailleur de Médecins du Monde au Sahel. Une hausse qu'il impute à la fois au changement climatique qui force le déplacement de populations et au renforcement de la capacité de nuisance des groupes armés, mieux équipés et mieux structurés qu'avant. Pour informer la population sur l'urgence de mieux protéger les humanitaires, Médecins du Monde Canada vient de lancer un épisode sur le sujet de son balado « Un monde en santé » animé par le journaliste Pierre Craig. Selon Olivier Van de Castille, les efforts de sensibilisation et de mobilisation sont essentiels pour que le grand public comprenne que protéger les acteurs humanitaires, c'est aussi protéger notre humanité. Le droit international ouvertement bafoué. De passage à Montréal cette semaine, la secrétaire générale d'Amnesty International, Agnès Callamard, s'est inquiétée de la hausse des violences contre les humanitaires. Auparavant, ceux-ci étaient protégés par l'idée qu'on se faisait de leur rôle, mais tout ça s'effondre, a-t-elle affirmé au Devoir. De manière générale, le droit international est bafoué sur plusieurs terrains de guerre. On est entré dans une autre dynamique qui n'est plus celle de nier ou de cacher, mais qui est plutôt de dire « ces règles, je les viole parce qu'elles ne s'appliquent pas », dit-elle en rappelant que la Russie clame avoir été provoquée par l'Ukraine et qu'Israël affirme mener une guerre défensive à Gaza. C'était un nombre record de travailleurs humanitaires tués en 2024, un texte de Magdalene Boutros, paru le 10 mai 2025 dans Le Devoir.
Une menace impétueuse ou infâme? Droit de douane sur les films étrangers. Un texte de Marc Cassivi, paru le 8 mai 2025 dans la presse. Lorsque Donald Trump a annoncé dimanche le 4 mai 2025 son intention d'imposer des droits de douane de 100% aux films produits à l'extérieur des États-Unis, j'ai pensé spontanément à The Apprentice. Présenté en 2024 en compétition au Festival de Cannes, le film a valu à ses principaux interprètes, Sebastian Stan et Jeremy Strong, d'être finalistes aux Oscars. The Apprentice raconte la montée en puissance de Donald Trump, Stan, dans le monde des affaires à New York, après sa rencontre avec son mentor, Roy Cohn, Strong. C'est un film qui a eu toutes les difficultés du monde à trouver un distributeur américain. Les avocats de Trump menaçaient ses artisans de poursuite avant de prendre l'affiche peu avant l'élection présidentielle américaine. À Cannes, plusieurs acheteurs potentiels trouvaient le sujet du film trop clivant, d'autres trop complaisant, ce n'est pas mon avis, et ne croyaient pas en son potentiel commercial. Ils n'avaient pas tort. Malgré ses sélections à Cannes et aux Oscars, le film n'a engrangé que 4 millions US au guichet nord-américain et n'a toujours pas été acheté par une plateforme numérique. Réalisé par le Danois d'origine iranienne, Ali Abbasi, The Apprentice est une coproduction canado-irlando-danoise tournée essentiellement à Toronto. C'est le type de film visé par les droits de douane de Donald Trump. On croirait presque que le président américain avait ce titre précis en tête lorsqu'il a écrit que les tournages à l'étranger constituent une menace pour la sécurité nationale et qu'il s'agit, en plus de tout le reste, de messages de propagande sur son réseau social Truth Social. J'y ai pensé, moi aussi. Est-ce un jab rétroactif? On ne pourrait jamais faire un film comme celui-là aux États-Unis. On a vu ce qui est arrivé. Tout le monde avait peur de l'acheter, rappelle Andrew Frank, l'un des producteurs exécutifs de The Apprentice. Le Montréalais, originaire de Cincinnati, est coprésident de Mongrel, l'un des plus importants distributeurs de films internationaux au Canada. Andrew Frank a plus de questions qu'il n'a de réponses à propos des dernières menaces de droits de douane improvisées par Donald Trump. Le président américain a déclaré lundi le 5 mai 2025, après la soudaine chute des titres boursiers des studios hollywoodiens, qu'il ne voulait pas nuire à l'industrie du cinéma américain, mais l'aider. Les dirigeants des principaux studios doivent se réunir pour faire le point. La première question qui me vient à l'esprit, c'est « Est-ce que ça va se produire? Et si ça se produit, ce sera quand? » Est-ce que ce sera rétroactif? Est-ce que ça va inclure la télé? Est-ce que les coproductions seront touchées à tous les niveaux ou seulement un pourcentage? Demande le distributeur. S'il ne s'inquiète pas outre mesure, Andrew Frank se prépare à toute éventualité. Monsieur Trump fait une remarque impétueuse sur les réseaux sociaux et tout le monde est en mode panique. C'est son modus operandi. J'ai été victime d'intimidation quand j'étais jeune et il n'y a qu'un langage que les bullies comprennent. Il ne faut pas avoir peur de les affronter. En l'occurrence, il faut se préparer comme on doit le faire de façon générale en affaires. Mieux vaut prévenir que guérir. Mais comment anticiper le prochain coup de tête d'un agent du chaos de la trempe de Donald Trump? Début mai 2025, il a été vu à sa résidence de Mar-a-Lago avec son vieil ami John Voight, l'un des trois ambassadeurs qu'il a nommé pour redorer le blason d'Hollywood avec Sylvester Stallone et Mel Gibson. Le soir même, il évoquait des droits de douane alors que John Voight lui avait plutôt proposé des incitatifs fiscaux afin de retenir aux États-Unis des tournages qui ont plutôt lieu au Canada, en Hongrie ou ailleurs. Il est vrai que le cinéma américain a perdu des plumes depuis la pandémie et les grèves des acteurs et des scénaristes. Hollywood, récemment ravagé par des incendies de forêt, a perdu 22% de ses tournages au premier trimestre de 2025. La production de films y a chuté de 40% depuis une décennie. C'est un problème qui, de l'avis général, ne sera pas réglé par des droits de douane, mais par des mesures fiscales. Le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, a proposé que Washington instaure un programme fédéral de crédit d'impôt de 7,5 milliards US. On estime que les droits de douane proposés par Donald Trump pourraient faire grimper les coûts de production de 25%. L'effet domino serait dévastateur pour une industrie déjà fragilisée par les plateformes numériques. Moins de films produits, moins de recettes au guichet, sans compter la réplique inévitable de pays qui font en sorte que les superproductions font souvent plus de profit à l'étranger qu'en Amérique du Nord. Donald Trump, qui ne semble pas accorder beaucoup d'importance au soft power hollywoodien, risque de mettre en péril l'équilibre de la production cinématographique mondiale. Celle-ci repose sur les compétences d'artisans un peu partout, notamment au Québec. The Brutalist de Brady Corbett, qui a valu l'Oscar du meilleur acteur à Adrien Brody, n'aurait pas pu voir le jour s'il n'avait pas été tourné en Hongrie, à un coût environ 30 % moins élevé qu'aux États-Unis, grâce à des crédits d'impôt, selon ses producteurs, qui participaient à une conférence à laquelle j'ai assisté à Los Angeles. The Finishing Scheme de Wes Anderson, qui sera lancé à Cannes avant de prendre l'affiche le 6 juin 2025, a été tourné en partie au studio Babelsberg, près de Berlin. Sera-t-il soumis rétroactivement à des droits de douane? Ceux-ci seront-ils applicables à un film qui n'est pas un bien? L'incertitude règne. En apprenant que Donald Trump voulait imposer des droits de douane, j'ai aussi pensé à la série de films Dune de Denis Villeneuve. La deuxième partie de la trilogie a été tournée en Jordanie, en Hongrie et à Abu Dhabi. Il n'y a pas de désert qui pourrait servir à camper Arrakis aux États-Unis. Le prochain Dune, qui doit être tourné dans la prochaine année, souffrira-t-il des plus récentes mesures protectionnistes de Donald Trump? Ça reste à voir, même si pour l'instant, la pré-production se poursuit comme prévu. Beaucoup s'inquiètent de l'impact éventuel de droits de douane sur la distribution du cinéma international en Amérique du Nord. S'il coûte désormais le double à importer, les films du monde entier, qui peinent déjà à rejoindre le public, trouveront-ils encore une place dans les salles de cinéma? J'ai eu plusieurs réunions cette semaine et tous les vendeurs nous disent qu'ils ne s'attendent pas à ce qu'il y ait beaucoup d'activités pour les films internationaux à Cannes cette année. Je doute que ce soit un marché très occupé, même si, pour nous et pour d'autres à l'extérieur des États-Unis, je ne crois pas que ce sera très différent, estime Andrew Frank, qui se prépare à faire des achats au Festival de Cannes. Si j'étais un producteur canadien qui fait beaucoup de coproductions ou si je travaillais dans un corps de métier sur un plateau de tournage, je serais plus inquiet. Ça peut certainement faire mal à notre industrie, dit le distributeur, qui souhaite qu'en réponse aux droits de douane de Donald Trump, le gouvernement canadien soutienne davantage le cinéma canadien et québécois. Il n'y a pas de logique qui sous-tend le chauvinisme exacerbé de Donald Trump, ajoute Andrew Frank. Il sait comment irriter les gens qui se soucient de la liberté pour le plus grand plaisir de ses admirateurs. Sa dernière menace est ou impétueuse ou infâme. Je ne suis pas qualifié pour le déterminer. C'était une menace impétueuse ou infâme, droit de douane sur les films étrangers, un texte de Marc Cassivi, paru le 8 mai 2025 dans La Presse.
Plus d'animation que jamais dans le village cet été. Une chronique de Gabriel Rondy, parue le 26 mai 2025 dans le magazine Fugue. Chers lecteurs, lectrices, depuis quelques jours, la piétonnisation de la rue Sainte-Catherine est de retour pour une 19e édition. Et dès les premières heures, l'énergie du village renaît. Les terrasses reprennent vie, les rires fusent et les rencontres improbables, heureuses ou gênantes, recommencent. On est bien, ici. Et on est là pour toute la saison. Cette transformation estivale, c'est bien plus qu'un simple réaménagement de rue. C'est une déclaration d'amour à un quartier vivant, inclusif, effervescent. C'est un espace public qui nous appartient collectivement et où chaque personne peut se reconnaître. Au-delà des aménagements, de la verdure soignée et du mobilier repensé, la Société de développement commercial, SDC, du village, déploie tout l'été une programmation culturelle foisonnante, pensée pour tous les goûts. Et en 2025, pour souligner les 20 ans de la SDC, on voit les choses en grand. De mai à octobre, une saison colorée, inclusive et festive s'installe chez nous. Cette foire commerciale. Grâce au soutien de l'arrondissement de Ville-Marie, cette foire commerciale animeront notre rue piétonne cet été. Une façon pour nos commerçants, commerçantes de sortir en kiosque, d'aller à la rencontre de nouvelles clientèles et d'occuper pleinement l'espace public. Ces foires permettent aussi de réaffirmer le rôle essentiel du village comme moteur économique du centre-ville. La première, du 16 au 18 mai, a lancé la saison en beauté avec la troisième édition du Grand Championnat national de drague de Montréal, sur un mix-bus transformé en scène mobile. Une tradition est née. Et l'année prochaine, on vous promet une quatrième édition encore plus flamboyante. Un week-end qui pourrait être très payant. Cap maintenant sur un tout nouveau rendez-vous flamboyant, le week-end du 20 au 22 juin. Le vendredi, attendez-vous à des animations surprises dans le village, un avant-goût de ce qui vous attend tout l'été. Le samedi, préparez vos perruques les plus folles pour une tête à 5 000 $. Inspiré par le mythique Wigstock de New York, ce concours célèbre le look, l'audace et la créativité. Deux stations de juges invités repéreront les plus spectaculaires, soumis ensuite au vote du public. Le gagnant ou la gagnante repartira avec 5 000 $, de quoi passer un été encore plus stylé. Et pour clore le week-end, le dimanche 22 juin, place au tout premier tea dance en plein air de la saison. Musique, ambiance, popotin qui se déhanche. Votre dimanche dans le village vient de trouver sa nouvelle tradition. Deux autres tea dance se suivront les 7 septembre et 12 octobre. Et ce dernier se prolongera avec une nocturne spéciale, une nuit blanche à saveur queer jusqu'à 6 heures du matin. Cirque à ciel ouvert. Du 10 au 13 juillet, le village se transformera en scène à ciel ouvert. Avec nos partenaires de la TOHU et du cirque hors-piste, nous accueillerons une programmation 100% circassienne dans le cadre de Montréal complètement cirque. Ateliers participatifs, prestations acrobatiques, numéros surprenants, clownerie et poésie urbaine seront au rendez-vous. Le cirque, c'est aussi une façon d'investir la rue autrement, de créer des moments de magie intergénérationnelle et d'ouvrir les horizons artistiques du quartier. Des événements pour toute la communauté. L'année 2025 marquera aussi le grand retour du festival Fetish Weekend, qui investira le village avec ses tenues spectaculaires et sa clientèle internationale. Cette diversité d'événements contribue à faire du village un espace de liberté et de respect, où toutes les communautés trouvent leur place. Deux dernières foires commerciales sont prévues en septembre et octobre, l'occasion de renforcer les liens avec nos résidents, résidentes et d'ouvrir des dialogues à travers l'animation urbaine. Et bien sûr, vous retrouverez en octobre notre désormais classique Don de plantes pour offrir une seconde vie à nos installations florales. Cabaret Extravaganza, les artistes queer à l'honneur. Ils sont de retour. Nos cabarets Extravaganza, dirigés par le brillant Louis Guillemette, danseur, chorégraphe et résident du village, prendront d'assaut Sainte-Catherine les vendredis, samedis et dimanches tout au long de l'été. Drague, burlesque, cirque, tango queer, boylesque, contorsion, 18 rendez-vous qui célèbrent les artistes 2SLGBTQIA+, d'ici, les créateurs créatrices de la nuit et les arts vivants dans toute leur diversité. C'est notre façon de faire rayonner les talents locaux et de sublimer vos apéros. Chaque performance est pensée comme une fête de rue, un manifeste joyeux et une vitrine pour des artistes trop souvent invisibilisés. Des nouveautés à découvrir. Parce qu'on aime vous surprendre, on a glissé quelques nouveautés dans notre programmation. D'abord, les balades humoristiques avec Charlie Morin, une virée inattendue sur Sainte-Catherine, menée par une humoriste de la relève qui cumule les vues sur les réseaux sociaux. Fou rire garanti. Ensuite, un nouveau partenariat avec Fierté littéraire mettra la littérature queer à l'honneur tout au long de l'été. Performances littéraires, installations poétiques, rencontres avec des auteurs-autrices de la diversité. On garde encore un peu la surprise, mais préparez-vous à lire entre les lignes. Une saison rendue possible grâce à nos partenaires. Tout ce projet de piétonisation ne serait pas possible sans le soutien financier de nos précieux partenaires. La Ville de Montréal, l'arrondissement de Ville-Marie et la Caisse des Jardins du quartier latin. Chaque été, la rue Sainte-Catherine-Est devient un symbole vivant de ce que Montréal a de plus beau à offrir, un lieu vibrant d'échanges, d'inclusion et de fierté. Je suis ravi qu'à l'arrondissement de Ville-Marie, nous soutenions cette effervescence avec des initiatives rassembleuses et en appuyant la SDC du village. Ensemble, nous contribuons à faire rayonner ce quartier emblématique, si cher au cœur de la population montréalaise, dit Robert Baudry, conseiller de ville, district de Saint-Jacques. Soutenir la piétonisation du village, c'est soutenir une économie locale vibrante, un milieu de vie unique et une communauté inclusive. Nous sommes fiers d'être partenaires de cette transformation sociale et commerciale, dit Simon Derry, directeur général Caisse des Jardins du quartier latin de Montréal. Et la fierté. Évidemment, le point culminant de notre été demeure la fierté, du 31 juillet au 10 août. Un événement phare qu'on vous dévoilera en détail dans la prochaine édition de Fugue, avec une programmation inédite conçue avec Fierté Montréal. Préparez-vous à une magnifique célébration. En terminant, il faut tout un village pour faire vivre le village. Et c'est grâce à vous, commerçants, commerçantes, artistes, résidents, résidentes, touristes, visiteurs, visiteuses du soir ou du matin, que notre quartier bat au rythme de l'été. À très bientôt dans le village et bel été à tous. Info, tous les détails de la programmation vous seront dévoilés sur notre site web villagemontréal.ca. C'était plus d'animation que jamais dans le village cet été. Une chronique de Gabriel Rondy parue le 26 mai 2025 dans le magazine Fugue.